7h sur Europe 1.
Pavé pour le triplé, l'enroulé. Oh oui, oh oui. Et voilà, il l'a marqué de son empreinte ce match, Kylian Mbappé. C'est lui le Messi de ce match, Kylian Mbappé.
Le Messi Mbappé, héros du match d'hier soir. 3 buts marqués sur les 4 Parisiens sur la pelouse du Barça. C'était en Ligue des Champions. Julien Froment à Barcelone dès le début de ce journal, il a retrouvé sa voix. Et Virginie Fulpin qui sera à mes côtés. On reviendra aussi sur le match dans son édito sport. Les autres titres, il faut parfois parcourir jusqu'à 100 km pour se faire vacciner. Comment se fait-il que certains départements soient mieux dotés que d'autres? C'est le dossier de ce journal. Et puis on vous raconte l'histoire d'une pianiste anglaise qui n'arrivait pas à percer dans la musique. Seule solution, se faire passer pour un homme. Et vous allez voir, ça a marché. Juste après le journal, l'éclairage écho avec vous, Daniel Fortin. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Et ce nouveau bras de fer entre les États-Unis et la Chine.
Oui, il concerne la vente de matériaux stratégiques qui menacent l'industrie militaire américaine.
Toute l'équipe du 7-9 s'installe. Bienvenue à vous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Et direction Barcelone où le PSG a humilié le Barça de Messi 4-1.
Oui, avec un triplé de Mbappé, performance exceptionnelle. Julien Froment, c'est vous qui commentiez la rencontre hier soir sur Europe 1. On a entendu votre enthousiasme au moment du dernier but. Malgré les absences de Neymar et Di Maria, les Parisiens ont balayé le club catalan.
Oui, pourtant ça a très mal commencé pour le PSG avec l'ouverture du score du Barça, un pénalty très sévère. On s'est dit que l'histoire allait bégayer, mais Paris n'a pas flanché grâce à un collectif insubmersible, des individualités en état de grâce, un entraîneur, Mauricio Pochettino, très inspiré. Bref, le PSG a livré un match quasi parfait. Mention spéciale bien évidemment pour Kylian Mbappé, gigantesque, l'attaquant auteur d'un triplé a volé la vedette à la star argentine Léo Messi. Voilà comment Paris a réalisé son exploit, car on peut parler d'exploit, Hélène. C'est la première fois qu'un club français l'emporte en Ligue des Champions au Camp Nou.
Exploit, Julien, mais des Parisiens qui restent malgré tout prudents, échaudés, on s'en souvient, par la fameuse remontada d'il y a 4 ans.
Ouais, effectivement, aussi belle soit-elle, cette victoire n'est pas une fin en soi. À la fin du match, pas d'effusion de joie sur le banc de touche. L'entraîneur Pochettino, justement, est resté très calme, comme tous les joueurs d'ailleurs, même s'il n'était pas là il y a 4 ans. Ils savent tous qu'en foot, tout est possible. Et même si 100% des équipes à avoir remporté le match aller 4-1 à l'extérieur se sont qualifiées, eh bien, il faut confirmer cette statistique le 10 mars prochain, date du match retour.
Voilà, ne pas vendre la peau de l'ours. Merci Julien Froment, en direct de Barcelone pour Europe 1.
Autre titre ce matin, plus de 3 millions de Français ont reçu au moins une injection. La campagne vaccinale se poursuit, mais avec de sérieuses disparités selon les départements.
Et oui, pourquoi certains sont-ils mieux dotés que d'autres, ce qui oblige parfois à se faire vacciner loin de chez soi? C'est le dossier qu'on ouvre ce matin sur Europe 1 avec vous, Victor Delande, bonjour.
Bonjour.
D'abord, certains départements dénoncent une répartition des doses inéquitable et ça se répercute au quotidien sur tous les Français qui veulent se faire vacciner.
Oui, et tous racontent la même histoire, des heures passées sur le site santé.fr pour trouver un créneau disponible. En vain, aucun rendez-vous à proximité avant plusieurs semaines. Mais quand vous prenez un peu de hauteur, que vous dézoomez sur la carte de France, tout de suite apparaissent des créneaux dans les prochains jours, mais à 50, parfois 100 km de votre domicile. Des habitants de Saône-et-Loire vont ainsi se faire vacciner dans le Jura. Même situation entre les Hautes-Alpes et la Drôme. Un problème qui revient aussi énormément dans les grandes villes. À Toulouse, Lyon, Lille, Nice, Bordeaux, les candidats à la vaccination se bousculent. Pour très peu de doses, résultat, ils prennent leur voiture et vont se faire vacciner plus loin.
Un exemple, ce matin, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, les centres de vaccination sont pris d'assaut par les Parisiens. Résultat, les habitants de la commune ne représentent que 20% des personnes vaccinées. Écoutez ce reportage, signé Marine Protet.
Les gens qui se font vacciner viennent plus de Paris ou sinon dans les alentours. Tout ce qui est Dugny, Drancy, Bourget.
Aminata, chargée d'accueil, dresse le même constat depuis l'ouverture du centre il y a un mois. Sur les 70 patients qu'elle voit passer chaque jour, très peu d'habitants de La Courneuve.
En Seine-et-Marne, le 77, j'ai une dame qui est arrivée. Elle nous a dit c'est parce que c'est la seule place que j'ai pu trouver.
C'est exactement le problème auquel a été confronté Antoine. Absolument aucun créneau disponible pour ce Parisien de 70. 18 ans.
Il n'y a pas de place. Le truc santé.fr donne rien. Tout passe par Doctolib. J'ai vu tous les centres de Paris, il y en a 19. Tout était plein. Il n'y avait aucune attente possible. On ne pouvait pas réserver. Il n'y avait rien. Rien, rien, rien.
Soulagé d'avoir trouvé un centre de vaccination, ce retraité va quand même devoir refaire le trajet dans 24 jours pour sa deuxième injection.
Marine Protet. Victor Dolande, vous êtes toujours avec nous. On aimerait comprendre ce qui se passe. Pourquoi certains départements sont-ils mieux lotis que d'autres?
Alors d'abord, il faut savoir que deux critères sont pris en compte pour répartir les doses entre départements. Le nombre de personnes de plus de 75 ans et le nombre de professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec des comorbidités. C'est logique, ce sont les personnes prioritaires aujourd'hui pour se faire vacciner. Ça, c'est dans le meilleur des mondes et c'est ce qui s'est passé pour la répartition du vaccin Pfizer qui était envoyé département par département. En fait, c'est quand le sérum Moderna est entré en jeu il y a un peu plus d'un mois que la machine s'est grippée, car les doses ont été envoyées dans un hôpital par région et non plus par département. La logistique étant lente, la répartition des vaccins dans les départements voisins prend du temps. Autre élément, le gouvernement a parfois envoyé des doses supplémentaires dans les territoires les plus touchés par le virus. Là aussi, ça a pu donner un sentiment de déséquilibre. Enfin, dans certains départements, les Français veulent se faire vacciner plus que dans d'autres. Et ça, personne ne l'explique.
Merci Victor Dolande. Ajoutons que sur les 7 derniers jours, le nombre de cas quotidiens est en moyenne de 18 000. C'est stable, avec même une tendance à la baisse par rapport aux semaines précédentes. Malgré tout, la proportion des variants continue à augmenter.
7h06 sur Europe 1. À suivre, l'émotion d'une grand-mère qui demande à la France de rapatrier ses petits-enfants enfermés dans un camp en Syrie. Mais d'abord, Hélène Zélani, le gouvernement au chevet des jeunes qui démarrent dans la vie.
Oui, précisément, les jeunes actifs de moins de 25 ans qui s'installent dans leur premier logement. À partir de demain, ils vont bénéficier d'une nouvelle aide pour leur premier bail, 1000 euros versés par Action Logement, Olivier Samin.
Oui, on pourrait appeler ça coup de pouce premier logement, premier emploi. 1000 euros pour s'installer chez soi au moment où on entre dans la vie active. On connaît l'aide à la mobilité qu'Action Logement verse depuis déjà quelques années aux salariés qui doivent déménager pour se rapprocher de leur emploi. Là, c'est différent. Il n'est pas nécessaire de quitter sa ville ou son département. Le simple fait pour le jeune d'emménager dans son logement suffit pour obtenir l'aide. Alors, quelles sont les conditions? Le jeune doit avoir moins de 25 ans, un contrat d'embauche, CDI, CDD, mission d'intérim, contrat en alternance, contrat qui peut avoir déjà été signé depuis 18 mois, un salaire brut qui ne dépasse pas 1,1 SMIC, autrement dit 1710 euros par mois, et bien sûr un bail de location en bonne et due forme. La marche à suivre, pas compliquée. À partir de demain, il suffit d'aller sur actionlogement.fr, de répondre à quelques questions simples pour vérifier qu'on est éligible à la mesure, puis de scanner pièce d'identité, contrat d'embauche, bulletin de salaire, bail et relevé d'identité bancaire.
Voilà. Olivier Samin.
Voilà pour le mode d'emploi. Et vous savez, Europe 1 aide et accompagne les jeunes avec l'opération Europe 1 Solidaire qui continue. Ce matin, vous pouvez retrouver quelques 25 000 offres d'emploi sur europe1.fr. Une carte interactive, de l'aide et des conseils aussi dans notre newsletter média spécial envoyé tout à l'heure à 11h. Pour vous inscrire, vous allez sur europe1.fr.
La France abandonne des femmes et des enfants détenus dans des conditions inhumaines en Syrie. C'est avec ces mots que deux parlementaires réclament leur rapatriement.
Le député centriste Pierre Morel à l'huissier et le sénateur communiste Pierre Laurent envoient ce matin un courrier à tous leurs collègues du Parlement pour leur demander de se mobiliser en faveur des quelques 200 enfants bloqués dans des camps au nord-est de la Syrie.
Et écoutez le cri du cœur de cette grand-mère, elle s'appelle Suzanne. Quatre de ses petits-enfants vivent là-bas depuis 3 ans.
On espère vraiment que ça va bouger. C'est maintenant que ça bouge. Vraiment, là, ils sont trop en train de s'abîmer. Il faut imaginer, il n'y a aucune éducation. Là-bas, sur place, il n'y a pas de livres, il n'y a pas d'école. Ils sont en train de perdre leur langue maternelle. Alors, combien de temps va attendre? 3 ans, ils se sont abîmés pour les plus grands qui ont connu déjà la France. Ils sont en train de dire, mais moi, je veux retourner ici en France. Et les petits, ils sont nés dans le camp. Donc, les petits, ils ont connu que des cailloux, le sable et la poussière. Et l'hiver, le froid et la boue. Est-ce que ce sont des conditions pour des enfants? Je repose la question, c'est pas possible. Des enfants innocents, qu'est-ce qu'on attend? Qui meurent de maladie, on n'arrive plus à comprendre, nous, grands-parents. Qu'est-ce qu'on fait ces enfants déjà pour mériter ça? Là, on commence à désespérer. Et ce sont des victimes. Donc il n'y a qu'une solution, c'est les rapatrier. Et là, il y a urgence. Il y a une urgence.
L'émotion de cette grand-mère, un témoignage recueilli par Justin Morin. À l'Assemblée, le projet de loi contre le séparatisme a été largement adopté. Hier soir, il sera examiné au Sénat fin mars. Le Sénat, où le gouvernement a déposé un amendement surprise hier, il veut instaurer le vote par anticipation pour la prochaine présidentielle via des machines électroniques. Manœuvre politicienne, selon le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau. On va y revenir dans le journal de 8h. Notez aussi que les élections régionales sont reportées au 13 et 20 juin prochain. prochain.
Aux États-Unis, Joe Biden était hier soir dans le Wisconsin pour défendre son gigantesque plan de sauvetage de l'économie. 1900 milliards de dollars.
Le président américain veut frapper fort. C'est maintenant le moment de dépenser, de faire les choses en grand. On estime que si on passe cette loi, ça créera 7 millions d'emplois cette année. Plus c'est grand et mieux c'est. Voilà les mots de Joe Biden qui prévoit 600 millions de doses de vaccins disponibles d'ici la fin juillet, suffisamment pour vacciner tous les Américains. Par ailleurs, le pays connaît une vague de froid historique qui a déjà fait au moins 20 morts. Le Texas, habitué à la douceur, grelotte en ce moment, moins 12 degrés. Plus de 3,5 millions de foyers étaient privés d'électricité hier soir.
On va maintenant vous raconter cette histoire que j'évoquais en titre, histoire assez incroyable qui se passe en Angleterre. Celle d'une pianiste qui n'arrivait pas à percer.
Oui, et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de se faire passer pour un homme. Depuis, le succès est au rendez-vous. À Londres, Anaïs Cordoba.
Pianiste autodidacte, Annabelle Bennett se met à composer en 2012, à la mort de son père, un instrumentiste ami de David Bowie. Elle écrit des centaines de morceaux de musique classique qu'elle envoie à la BBC et à d'autres diffuseurs sans succès. Elle signe un contrat avec une société de production, mais les projets intéressants sont systématiquement attribués à ses collègues masculins et sa carrière ne décolle pas. Il y a 2 ans, elle décide alors de se faire passer pour un homme. Sous le nom d'Arthur Parker, elle envoie à la BBC les mêmes morceaux transmis auparavant sous son identité de femme. En peu de temps, Arthur Parker devient le compositeur le plus diffusé par la plateforme Nouveau Talent de la BBC. La chaîne va chercher à contacter Arthur Parker, mais pour ne pas se dévoiler, Annabelle ne décroche jamais le téléphone et ne communique que par email. Aujourd'hui diffusée au Royaume-Uni et à l'étranger, elle révèle sa véritable identité pour la sortie de son premier album prévu fin février. Il est signé Arthur Parker, car selon Annabelle Bennett, il se vendra mieux sous un nom d'homme. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Voilà, on voit que le monde ne change pas si vite que cela. Et puis à propos de l'origine du monde, on a tous appris à l'école que l'extinction des dinosaures était liée à un astéroïde qui avait heurté la Terre il y a 66 millions d'années. Et bien si on en croit une toute nouvelle étude parue aux États-Unis, c'était en fait un fragment de comète qui aurait été poussé par le Soleil, par l'attraction de Jupiter, un fragment évalué quand même à 7 kilomètres. Et maintenant, Amélie Nothomb qui est de retour. Ce n'est pas un roman, mais une œuvre audio originale consacrée aux mythologies, conçue par Audible, l'éditeur de livres audio. Son titre, La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis, Nicolas Carreau.
J'ai toujours eu l'intuition que la vérité se trouvait bien plus dans les mythes qu'ailleurs.
Pour ce premier épisode, Amélie Nothomb commence fort, elle descend aux enfers. La balade se présente notamment sous forme de lecture par Alexis Michalik.
Il marchait, seul dans la nuit, à travers les ténèbres, les demeures désertes de Pluton et ses royaumes vides.
Mais il n'y a pas que des textes, on se rend sur place aussi.
J'entre dans les jardins du musée Rodin. Je pense qu'une des meilleures façons d'aborder la question, c'est de voir la porte de l'enfer. Réalisé par le célèbre sculpteur Auguste Rodin au XIXe siècle.
Et c'est comme si on suivait Amélie Nothomb dans sa balade. Elle nous entraîne à la rencontre d'experts et d'artistes et elle nous fait part de son avis sur les œuvres et les mythes dans un style très nothombien.
Je ne dirais pas que j'ai envie de me rendre en enfer tout de suite en voyant cette scène, mais contrairement à l'enfer décrit dans les mythologies catholiques, ce n'est pas totalement rébarbatif.
Et toutes les mythologies y passent, grecques, scandinaves, asiatiques, la série compte 11 épisodes.
Umbrarum hic locus est, somni noctisque sopora.
Ici, c'est le royaume des ombres, du sommeil et de la nuit.
Ah ouais,
toujours
on est chez Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb. Merci Nicolas Carreau, ça s'appelle La Divine Comédie d'Amélie Nothomb.
Voilà, document sonore à plusieurs épisodes, style très nothombien, comme dit Nicolas Carreau. C'était le journal d'Hélène Zélani sur Europe 1, il est 7h14.